Bien, on va reprendre la suite donc, du cours de physique quantique. J'avais présenté la dernière fois le cœur, enfin un principe central de la physique quantique qui est donc ce que j'ai appelé le principe de combinaison, qu'on appelle souvent le principe de superposition, qui dit essentiellement que dès lors qu'on a deux états possibles pour un système, on peut les combiner à loisir sous forme de combinaison linéaire, donc en un sens mathématique précis, pour obtenir d'autres états. Donc ça nous a donné la notion d'espace d'état, c'est une notion donc très importante en physique quantique. Pour chaque système, vous avez un espace d'état accessible qui a la structure d'un espace vectoriel sur le corps des complexes, hein, donc on fait des combinaisons linéaires avec des coefficients complexes, et on était en train de commencer à donner quelques propriétés. Alors je crois que je m'étais arrêté sur une remarque. Je voulais insister sur le fait que quand on a un état qui est une combinaison des autres états, ça ne veut pas dire que le système est à la fois dans les états dans les états qui entrent dans la combinaison. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Et par ailleurs, vous savez bien dans un espace vectoriel que vous pouvez choisir différentes bases. Donc un état, même pour des vecteurs ordinaires du plan, ce vecteur-là, vous pouvez dire que c'est une combinaison de celui-là plus celui-là, mais ça peut être aussi celui-là plus celui-là, ou bien celui-là plus celui-là, etc. Donc, vous pouvez bien évidemment décomposer n'importe quel vecteur sur n'importe quelle base, par définition des bases, mais un vecteur est un vecteur, il est ce qu'il est, indépendamment des vecteurs sur lesquels vous voulez le décomposer. Hein. Donc faites bien attention à ça, chaque état du système est un vecteur de l'espace d'état, et un vecteur c'est un vecteur comme un autre, il n'y a pas de statut particulier des états sur le plan fondamental. Alors on verra par contre qu'il y a certains états qui ont un statut particulier vis-à-vis d'une grandeur physique particulière. Alors, on va préciser tout ça aujourd'hui. Mais avant, je voulais juste finir le grand 2 de la dernière fois. Je crois que j'en étais resté au... ça devait être grand 2, troisièmement. Dites-moi si c'était pas ça, parce que parfois je me décale par rapport à mes notes. Donc, grand 2, troisièmement, dynamique d'un système. Alors, la dynamique d'un système, de manière générale, c'est ce qui décrit comment il évolue. Alors, comment évolue un système? Eh bien, simplement en changeant d'état, par définition. Le système évolue s'il change d'état. Et je vais définir tout de suite ce qu'on appelle l'opérateur d'évolution. Alors, on reviendra sur la notion d'opérateur d'évolution, on montrera comment il s'écrit, etc. C'est important, mais là, je veux juste rester complètement général pour énoncer quelques propriétés. L'opérateur d'évolution, par définition, c'est l'opérateur qui fait passer de l'état du système à un moment donné, à un instant donné, donc l'état à l'instant T. Alors, vous vous rappelez qu'on note les états physiques comme des quêtes, donc c'est juste une façon de noter les vecteurs dans l'espace d'état pour les distinguer des vecteurs géométriques par exemple, et surtout parce que cette notation va avoir un avantage pratique, c'est la notation introduite par Dirac, il se trouve qu'elle est utile. Donc l'état à l'instant T se note psi de T, et on veut passer à l'état du même système à l'instant T prime. Et donc, à l'instant T prime, je le noterai psi de T prime. Donc, c'est un nouveau quête, un nouveau vecteur d'état. Et donc, il y a une opération, évidemment, qui fait passer de l'état à l'instant T à l'état à l'instant T prime. Cette opération, c'est l'opérateur d'évolution. Il n'y a pas de grande surprise à ça. Alors, cet opérateur, donc, je vais le noter U, parce que c'est comme ça qu'on fait en général, parce qu'en fait, on verra plus tard que c'est un opérateur unitaire. Mais peu importe, donc on le note U de façon traditionnel. En tout cas, il y a un opérateur qui fait passer d'un état à un autre. Alors, il y a un certain nombre de propriétés de cet opérateur.
Tout d'abord... Ouais. Je vais
changer de tableau tout de suite. Cet opérateur pourrait être n'importe quoi. Mais on va donc implémenter des propriétés. Alors, deuxièmement, tout de suite. Oui, c'est ça. Propriété générale. Alors, il y a beaucoup de propriétés. On ne les verra pas toutes maintenant parce qu'on n'a pas les outils mathématiques encore pour voir toutes ces propriétés. Mais une première propriété importante, qui ne va pas vous surprendre compte tenu de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que cet opérateur est linéaire. Alors, il est linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, en partant de l'état psi 1 de t, on obtient l'état psi' 1 de t, qui est donc l'action de cet opérateur sur l'état... c'est psi 1 de t prime, excusez-moi. Hein, c'est à l'instant t, on passe à l'instant t prime. Eh bien, ça va être u de t, t prime, appliqué à psi de t. D'accord ? On était dans l'état... psi 1, décidément. On était dans l'état psi 1. Cet opérateur, c'est sa définition, c'est l'opérateur qui, lorsqu'on l'applique à l'état à l'instant t, on obtient l'état à l'instant t prime. Si maintenant je pars d'un autre état, il n'y a évidemment aucune raison que j'arrive au même état. Il y a même toutes les raisons que j'arrive pas au même état. Et donc, je vais obtenir l'état psi 2 de t prime qui vaut simplement ceci. Aucune surprise, ok, c'est juste une notation. Enfin, disons, j'implémente le fait que U est l'opérateur d'évolution du système. Eh bien, la linéarité nous dit que si je pars d'un état A psi 1 de t, enfin alpha 1 psi 1 de t plus alpha 2 psi 2 de t, eh bien, je vais obtenir, alors ça, je vais l'appeler comment cet état? Je vais l'appeler phi, comme ça. Voilà, je vais, alors, pardon, décidément, je vais avoir du mal avec les notations aujourd'hui, je le sens. J'obtiens l'état phi de t prime, qui, sans surprise, va être alpha 1 ça plus alpha 2 ça. D'accord? Donc, ça va être alpha 1 psi 1 de t prime. Je ne réécris pas tout le développement. Enfin, si, peut-être. Plus alpha 2 psi 2 de t prime. Et ça, par définition, on est d'accord. Par définition, c'est u de t t prime appliqué à phi de t. Hein? Donc, c'est le même opérateur d'évolution qui réalise l'évolution du système quel que soit son état de départ. Donc ça, c'est une première propriété sous-jacente. J'aurais peut-être dû l'énoncer explicitement, même dans le premièrement. L'idée qu'on a un opérateur d'évolution veut dire que il y a une fonction qui, enfin, donc un opérateur qui exprime comment évolue le système, et ce sera le même opérateur quel que soit l'état de départ. Hein. Par exemple, non, pas par exemple. Ok. Donc, cet opérateur réalise l'évolution du système, quel que soit son état de départ, et il a la propriété très importante de la linéarité, qui fait que, si vous voulez, U appliqué à une combinaison linéaire, ça donne la combinaison linéaire de l'application de U. Hein. Donc, pour le dire vite, l'évolution d'un état combiné, c'est la combinaison des évolutions des états individuels. Ça pourrait être autrement, vous me direz, mais enfin, ça briserait complètement toute l'idée de linéarité sur laquelle on s'appuie depuis le début et qui justifie la notion même d'espace d'état. Donc ça, c'est la première propriété. que l'on peut énoncer de manière très générale. Une deuxième propriété, ça va être l'invariance par translation dans le temps. Ça, c'est une propriété complètement générale de la physique. Hein, vous savez que il y a ce qu'on appelle l'uniformité du temps. Si vous faites une expérience maintenant et que vous revenez dans une heure, vous faites la même expérience. Enfin, toutes les choses sont exactement les mêmes, y compris l'environnement. Enfin, vous faites la même expérience, vous allez obtenir le même résultat. Sinon, on ne sait pas bien ce que voudraient dire les lois physiques, d'ailleurs. Hein. L'idée même d'une loi physique, c'est que justement, c'est une loi qui gouverne comment les choses se passent, toujours. Sinon, ce n'est pas une loi. On pourrait se dire, tiens, mais oui, d'accord, mais pourquoi les lois physiques n'évoluent pas dans le temps? D'accord, mais à ce moment-là, il faudrait comprendre comment les lois physiques évoluent dans le temps. Et la vraie loi physique fondamentale serait celle qui nous dit comment les lois évoluent dans le temps. Et celle-là, elle n'évoluerait pas dans le temps, puisqu'elle décrirait au contraire comment les lois évoluent dans le temps. Bref, vous avez compris l'idée. Donc, les lois de la physique sont invariantes par translation dans le temps. Par conséquent, si je pars de l'instant t pour aller à t', ou si je pars de l'instant t0 pour aller à t0 plus le delta t, mais si c'est le même delta t, j'aurai le même résultat. D'accord ? Autrement dit, l'opérateur évolution, donc petit b, invariance par translation dans le temps, l'opérateur U, qui dépend de t et de t', puisque c'est l'opérateur qui dit comment on passe de l'instant de départ à l'instant d'arrivée, en fait, il ne dépend que de la différence entre t et t', c'est-à-dire t' moins t. Donc, le U de t', c'est en fait une fonction de t' moins t. Alors, je garde la même lettre. Ça, en toute rigueur mathématique, je devrais prendre une autre lettre. Ça, c'est une fonction de deux variables. Ça, c'est une fonction d'une variable. Donc, ça ne peut pas être la même chose. Mais enfin, je la note pareil. Donc, vous voyez ce que ça veut dire. L'état final dépend de l'état initial, mais cette dépendance ne dépend que de la différence des instants entre les deux. Bon. Enfin, mathématiquement, c'est très clair, voilà ce que ça veut dire. Hein. Donc ça, c'est l'invariance par translation dans le temps. Et puis... Oui, alors je voulais ajouter autre chose qu'on peut énoncer tout de suite. C'est la continuité. Mais je ne vais pas pouvoir expliciter tout de suite ce que ça veut dire. Et ça va nous occuper une bonne partie de la matinée, ce problème de continuité. Ça dit en gros que si on part de deux états voisins, eh bien, on arrive à deux états qui sont voisins. Alors, très, très excellente question. On arrive à deux états voisins. Voilà. Alors, je vais mettre des guillemets. C'est la question que je voulais entendre. C'est quoi des états voisins? Eh bien, on ne sait pas pour l'instant. On n'a pas les outils pour enfin, je veux dire, on sait, on saura très vite, mais... vous voyez qu'il nous manque des outils pour dire ce que c'est qu'un état voisin d'un autre. Pourquoi? Ben, parce que les états sont des éléments d'un espace vectoriel, et un espace vectoriel, si vous ne lui donnez pas une structure supplémentaire ou des ingrédients supplémentaires, ben, il n'y a pas de notion particulière de distance. On voit bien que pour définir la proximité entre états, il va falloir une distance. Alors c'est ce qu'on a commencé à faire en maths la dernière fois, quand on a vu que dans un espace vectoriel, on pouvait introduire une norme. Et dès lors qu'on a une norme, on a des distances. Dès qu'on a des distances, on peut faire la topologie, ce que j'ai dit rapidement à la fin du cours de maths. Hein. Donc on va introduire ça petit à petit, mais vous voyez qu'effectivement, pour donner un sens à cette notion de continuité qui nous est naturelle en physique, il va falloir introduire quelque chose, enfin ajouter un ingrédient à l'espace des états. Donc ce qu'on va faire, mais pas tout de suite, je le note juste ici pour mémoire. Alors il y a d'autres propriétés générales qu'on peut énoncer sur l'opérateur d'évolution, mais là aussi il nous manque encore des ingrédients mathématiques pour exprimer ces autres propriétés, en particulier la propriété qu'on appelle l'unitarité. Donc je vais le noter là, mais je le note. Pour l'instant, ça ne veut rien dire pour vous. Et de toute façon, on n'a vraiment pas les outils pour expliciter ce que ça signifierait. Donc, voir plus tard. Je le note là, éventuellement, pour mémoire. Je n'avais pas prévu d'en parler, mais ce n'est pas grave. Trop tard. Bien. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire de manière générale sur les opérateurs d'évolution. L'essentiel, c'est qu'il existe un opérateur évolution. Par ailleurs, cet opérateur est déterministe. C'est-à-dire que, enfin, c'est contenu aussi dans la définition, enfin, ce que j'ai effacé là. C'est-à-dire, dire qu'il y a un opérateur d'évolution, ça veut dire que si vous connaissez l'état de départ, vous allez connaître l'état d'arrivée. C'est juste l'action de l'opérateur sur l'état de départ. C'est quelque chose d'important. Donc les lois de la physique, de ce point de vue-là, en physique quantique, ne sont pas différentes des lois de la physique classique. Conceptuellement, vous avez un état initial, et puis le système évolue suivant des lois physiques, et donc l'opérateur d'évolution porte en lui l'ensemble des lois physiques, et va dicter l'état d'arrivée. Alors, je vais donc commencer une autre section ici, grand 3, comment distinguer les états et les identifier. Alors ça, c'est quelque chose, vous allez voir, qui nous réserve des surprises, et on va avoir un peu le vertige tout à l'heure. J'ai dit quoi? Comment distinguer les états? Et les identifier. Alors, premièrement, on va voir ce qui se passe en physique classique. Comment on distingue les états en physique classique? On les distingue à travers la valeur des grandeurs physiques. Donc, via la valeur d'une grandeur physique. C'est quelque chose que j'ai déjà discuté la dernière fois. En physique classique, ou de manière générale, on distingue les états parce qu'ils se comportent différemment dans différentes situations. Si deux états conduisent systématiquement dans tous les contextes au même comportement, évidemment, vous ne pouvez pas les distinguer, c'est le même état en fait. Donc on dit que deux états d'un système sont différents dès lors qu'ils induisent des comportements différents, au moins dans un contexte particulier. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que comme la physique est quantitative, on peut attribuer à des comportements distincts des valeurs distinctes d'une certaine grandeur physique qui est définie justement par la manière dont se comportent les systèmes. J'avais pris l'exemple d'un verre d'eau avec la grandeur physique température. Deux états distincts de température pour le verre d'eau vont induire des comportements différents si vous mettez un thermomètre dedans. Ça va afficher autre chose sur le thermomètre, tout simplement. Donc, en physique classique, on distingue les états du système par des valeurs différentes. Donc, états différents, ça équivaut à des valeurs différentes des grandeurs physiques. Autre exemple, l'état de cette craie dans la pièce, je peux la définir par la hauteur au-dessus du sol, puis ça c'est un autre état, il y a une autre hauteur. Voilà. Mais je peux aussi définir cet état par le temps que ça mettrait à tomber par terre si je le lâchais. C'est une autre grandeur physique, le temps de chute, si vous voulez, effectivement il va être différent. Alors après, les lois physiques nous donnent un lien entre la hauteur, une première grandeur physique, et la durée de la chute, une autre grandeur physique. Mais en tout cas, les états se distinguent par différentes valeurs des grandeurs physiques. Alors, parfois, une seule, pour un système très simple, je sais pas, le verre d'eau pour lequel je ne considérais que la température, une seule grandeur physique suffit à distinguer tous les états. Parfois, il y a besoin de plusieurs grandeurs physiques. Par exemple, la position d'un point dans l'espace, vous savez qu'il faut trois coordonnées, trois grandeurs physiques, du coup, trois longueurs, c'est-à-dire des distances de l'objet à des corps de référence, pris comme référentiel, etc. Bref, on va se limiter dans tout ce qu'on va faire là à l'idée que, enfin, il suffit d'une grandeur physique pour distinguer les états d'un système. S'il en faut plusieurs, c'est exactement la même chose. Ça introduira rien de nouveau, donc on va simplifier les choses. Donc en physique classique, c'est très simple. Les états diffèrent par différentes valeurs des grandeurs physiques. Et par conséquent, là, pour le coup, on a une notion de proximité des états, hein, cet état voisin, qui est complètement naturelle, qui est directement héritée de la notion de proximité entre les nombres. Hein, puisque les états sont caractérisés par les valeurs des grandeurs physiques, deux états voisins, ou deux états proches, je ne sais pas comment dire ça, proches ou voisins, sont deux états ayant des valeurs proches ou voisines des grandeurs physiques. Deux états ayant... J'ai dit proche, donc je vais redire proche... ayant des valeurs proches des grandeurs physiques. Ok ? Tout ça est complètement trivial, on est d'accord, mais vous voyez donc qu'il y a une notion de proximité tout à fait naturelle, qui est la notion de proximité des nombres, et du coup, quand j'ai parlé de continuité, on voit très bien ce que ça veut dire en physique classique que la physique est continue, ça veut dire que les valeurs des grandeurs physiques varient continuement. Oui ?
Quand on parle de deux états,
ouais.
Et qu'on a deux états voisins quand on regarde justement la température. Mais qu'on garde les mêmes états, et qu'au lieu de regarder la température, on regarde autre chose, et on voit qu'ils ne sont pas voisins.
Oui, absolument. Alors, c'est vrai, oui, c'est une bonne remarque. Si on a plusieurs grandeurs physiques, alors la notion de proximité va devoir être aménagée, mais c'est comme si vous étiez dans un espace à plusieurs dimensions. Par exemple, donc, prenons X et Y dans le plan. La notion de position, c'est vrai que vous pouvez avoir le même X, si vous regardez la grandeur X, vous pouvez avoir deux points qui ont le même X, mais qui ont des Y différents, et donc, ils sont effectivement pas voisins, ces points-là. Mais ce que vous faites, du coup, pour définir un voisinage, c'est que vous vous mettez dans l'espace à deux dimensions, donc qui prend les deux grandeurs, et puis le voisinage, il est défini par la proximité à la fois de X et de Y. Donc de la même façon, pour le verre d'eau, où on pourrait prendre donc sa température et peut-être son volume, par exemple, eh bien de la même façon, on pourrait définir le voisinage d'un état physique comme l'ensemble des états qui ont à peu près la même température et à peu près le même volume. Hein, d'accord. Et on peut généraliser ça à autant de dimensions qu'on veut. Donc vous avez raison, parfois... une grandeur physique ne suffit pas, et donc la notion de proximité doit prendre en compte l'ensemble des grandeurs physiques. Mais donc, ce que nous dit le fait que la physique est continue, c'est que les grandeurs physiques, lors de l'évolution des systèmes, varient de manière continue. C'est-à-dire que si la température du verre d'eau change, enfin de l'eau dans le verre d'eau change, elle va changer continuellement. C'est-à-dire que la fonction T, la fonction température, en fonction du temps, va être une fonction continue. Ça peut faire des tas de choses, mais ça peut pas d'un seul coup se retrouver ailleurs. D'accord ? C'est ça que veut dire la continuité, ça nous est complètement naturel, au point qu'on n'a jamais énoncé les choses de façon aussi formelle. Ça a l'air un peu pédant là, mais on va voir tout de suite qu'en physique quantique, on rencontre un problème très important, qui est que on va pas pouvoir toujours... distinguer les états par la valeur de grandeur physique parce qu'on va voir tout de suite. Voilà. Allez, je vais prendre le troisième tableau. Hop. Alors, j'en suis au combien, là ? 2, 3, non. Grand 3, non, alors, grand 3, 3, c'est ça ? 2. Merci. Grand 3, 2. Je me suis déjà décalé, mais c'est pas grave. Je vais appeler ça problématique nouvelle. Donc en physique quantique, je note physique avec un phi et une barre, excusez-moi, c'est pour aller plus vite. S'il y a des abréviations qui vous échappent, n'hésitez pas évidemment à me demander. Vous avez déjà dû remarquer que le θ, ça veut dire sion, mais bon, quand j'écris un θ parfois, bon. Alors, en physique quantique, on rencontre une problématique nouvelle qui est vraiment, vraiment déroutante. Cette problématique, elle est associée justement à la propriété de combinaison des états, enfin de possibilité de faire des combinaisons d'états. Alors, je vais me placer dans un cadre où une seule grandeur physique est pertinente pour le système en question. Hein. Par exemple, la température du verre d'eau, on oublie la forme, le volume, etc. Juste la température. Enfin bon. De manière générale, donc j'ai un système S. Je note comme ça, S rond là. J'ai un système S. J'ai une grandeur physique G. Qui est pertinente pour le système, c'est-à-dire que du point de vue de cette grandeur physique, le système peut avoir différents états qui se comportent de façon différente. Hein, donc c'est une grandeur pertinente pour le système en question. Et je vais supposer, je vais distinguer certains états par la valeur de G correspondante à l'état en question. Donc je vais supposer qu'il existe des états du système, de S, ayant une valeur bien définie. De la grandeur G. D'accord? Alors, on va faire simple, on va prendre des valeurs discrètes, on pourrait prendre un continuum de valeurs possibles, juste pour faciliter l'écriture, mais en fait, ça n'aura aucune incidence. Je suppose que les valeurs sont des valeurs GI, avec I, oh, bah remarquez, voilà, j'emploie la même notation que ce qu'on a vu en maths, l'espace d'indexation pourrait même être infini, non dénombrable, continu ou pas, enfin bref. J'ai un certain nombre de valeurs pour lesquelles il existe un état qui a la valeur en question. Alors, comment je vais noter ces états? Ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent en physique quantique. Je vais noter l'état du système ayant la valeur bien définie GI, bien définie GI, l'état qui a cette valeur-là, je vais le noter, vous voyez, c'est assez naturel, je vais le noter GI, comme ça. Donc c'est le ket qui a la valeur GI, comme ça, quand on voit le ket, on voit tout de suite la valeur qu'il a. C'est comme si dans l'espace géométrique, vous notiez le vecteur qui pointe vers le nord, vous le notez comme ça. Voilà, c'est le vecteur qui pointe vers le nord, celui qui pointe vers l'est, vous le notez comme ça. Voilà, donc comme ça, quand vous voyez le vecteur écrit, vous savez exactement de quoi il s'agit. Donc là, on n'a qu'une seule grandeur physique qui est pertinente. Il y a un certain nombre d'états qui peuvent avoir des valeurs bien définies. Celui qui a la valeur GI, je le note GI, enfin ket GI. Donc tout ça c'est une notation parfaitement limpide et qui permet d'être explicite. Bien. Donc, ça veut dire que le ket G1 est associé à la valeur G1, le ket G2 est associé à la valeur G2, et voilà la question terrible. On est dans un espace vectoriel d'état, on peut faire des combinaisons linéaires d'état, par conséquent, voici un état parfaitement bien défini, α1 G1 plus α2 G2, question: quelle valeur de G? Quelle valeur de la grandeur physique grand G? Ça, c'était la grandeur physique grand G. Ça, c'est l'état. Voilà. Ça, c'est l'état. Ça, c'est la valeur de G. Question: quelle est la valeur de G associée à cet état-là? Alors, Ouais, ouais, c'est sans doute pas ça. Mais le pas ça en question, c'est quoi le ça auquel on pense tous? Bah, alpha 1 G1 plus alpha 2 G2. C'est linéaire, bah voilà quoi. Sauf que non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, pourquoi c'est pas ça? En fait, il y a plein de raisons qui peuvent nous faire comprendre qu'en fait, non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça, par exemple, parce que si c'était ça, alors il y aurait, enfin, cet espace vectoriel des états, mais en fait, il aurait qu'une seule dimension. Parce que il me suffirait de prendre l'état 1, l'état qui a la valeur 1, et puis après, je prends l'état g fois 1, et si j'applique ça, si ça c'était vrai, bah ça ce serait l'état, donc ça c'est l'état qui est associé à la valeur 1, bah ça ce serait l'état associé à la valeur g fois 1. D'accord? Du coup, le truc de l'espace vectoriel, ce serait vraiment du pédantisme complet, puisque tous les espaces d'état seraient en fait des espaces à dimension 1 qu'on peut très bien identifier avec le nombre directement. Hein. Si les états c'est des g fois 1, oublions le 1, les états c'est g, comme en physique classique, chaque état est caractérisé par la valeur de sa grandeur physique, et puis voilà. Hein. Vous voyez que si on avait ça, on aurait ça, on est d'accord. Hein, c'est... Okay. Et puis, bon, et puis le vecteur nul, ce serait simplement l'état qui a la valeur 0 pour g, etc. Et d'ailleurs, déjà, ça veut dire que si c'était vrai, à nouveau, ça, on pourrait obtenir... ça nous montrerait qu'on peut obtenir toutes les valeurs de g, du coup. Si on peut faire toutes les combinaisons linéaires, du coup, on peut obtenir toutes les valeurs de g. Ça veut dire que toutes les grandeurs physiques ont forcément toutes les valeurs possibles. Par exemple, là j'étais parti en parlant d'une grandeur physique qui peut avoir que des valeurs discrètes. Alors, la conclusion de ça, la première conclusion, ce serait, ben, en fait, non, c'est pas possible que les états aient des... Enfin, que les grandeurs physiques ne puissent avoir que des valeurs discrètes, puisqu'il suffit de le multiplier par un certain nombre, puis vous avez... Enfin, vous pouvez balayer l'ensemble des valeurs possibles, si ça, c'était vrai, à nouveau. Alors, peut-être que c'est ça, non. Alors, l'expérience nous montre clairement qu'il y a des grandeurs qui ne peuvent prendre que des valeurs discrètes. Donc déjà, ça suffit à balayer l'affaire. Mais on peut aller plus loin. Imaginons effectivement que cette propriété soit vraie. Alors, prenons pour alpha 1, G2, et pour alpha 2, moins G1. À ce moment-là, ça veut dire que l'état G2, G1, qui est une combinaison linéaire, parfaitement possible. Hein, cet état aurait pour valeur quoi? Eh bien, G2, G1 moins G1, G2, c'est-à-dire 0. Donc on aurait, en fait, cet état serait le vecteur nul, quoi. Enfin, serait en tout cas l'état qui a valeur 0. Et donc, et par ailleurs, l'état qui a valeur 0, c'est aussi le vecteur nul, parce que si vous faites 0 fois G1, bah, ça vous fait la valeur 0. Donc en fait, vous voyez qu'à nouveau, dès que vous avez deux valeurs différentes, en fait, vous avez une combinaison linéaire qui donne 0, qui donne le vecteur nul, et donc ça veut dire que ce sont deux éléments qui sont collinéaires. Hein. Par définition, s'ils n'étaient pas collinéaires, on ne pourrait pas faire une combinaison linéaire non nulle. Et donc ça voudrait dire que en fait ils sont collinéaires, et du coup s'ils sont collinéaires, si vous faites ça moins ça et que ça fait 0, bon, en fait G2 égale G1. Et là vous trouvez qu'en fait du coup, il n'y a forcément qu'une seule valeur de G possible. Alors qu'on vient de dire qu'en fait, elle l'était toute... Bref, juste, ça ne tient pas la route. Autre chose, si on veut aller plus loin, bah, ce serait quoi si alpha était un nombre complexe? On aurait une valeur de G complexe? Ça n'a strictement aucun sens. C'est quoi une température de 3 plus 2i? Kelvin. Hein, on a déjà dit la dernière fois, la physique quantique ne remet pas en cause que quand on veut quantifier quelque chose, donner une notion de quantité à une grandeur physique, ce sera toujours un nombre réel. C'est les seuls noms avec lesquels on peut former des quantités au sens ordinaire. Et il n'y a pas d'autre façon d'attribuer un sens à cette notion de quantité. Bref, pour mille raisons, et on pourrait en aligner d'autres, oui.
Ouais.
Ben, si, si, c'est le cas, en l'occurrence, alpha 1 et alpha 2, c'est des nombres complexes, mais parce qu'on est dans un espace vecteur. Mais même s'ils étaient réels, d'ailleurs, hein, la même chose s'appliquerait. Hein. D'accord? Ouais? Non? Ouais. Ok. Donc, pour plein de raisons totalement évidentes, il suffit de se pencher deux secondes sur la situation pour voir que ça paraît naturel. On se dit, ce serait bien si c'était ça, mais non, c'est pas ça, et c'est évidemment pas ça. Mais alors, c'est quoi? Parce que cet état, il existe, il a pour valeur bien définie G1. Celui-là aussi a pour valeur bien définie G2. Cet état, il existe. Alors, quelle est sa valeur de G? Réponse, aucune. Aucune. C'est un peu troublant, mais c'est comme ça. C'est la seule conclusion possible. Mais alors, il va falloir voir ce que ça veut dire. Et pour comprendre ce que veut dire n'avoir aucune valeur d'une grandeur physique qui est pourtant pertinente pour le système. Hein. Le système peut être dans l'état G1, qui a une valeur bien définie, G1, avec tout, le sens habituel des grandeurs physiques, c'est-à-dire quantitativement. Par exemple, ça peut être la valeur de la température. Hein. L'état T1 à la température T1, l'état T2 à la température T2. Quelle est la température de cet état-là? Oui. Alors, justement, on va le voir, le truc c'est que la physique est comme ça, c'est-à-dire que les états peuvent être combinés. Mais effectivement, il va falloir donner un sens aux grandeurs physiques dans des états de ce genre. Et toute la physique quantique est là, en quelque sorte. Donc on va voir tout de suite, pour justement comprendre ce qui se passe, il faut se pencher un petit peu plus précisément sur qu'est-ce que c'est mesurer une grandeur physique. Qu'est-ce que c'est attribuer une grandeur physique à un système? Alors, je vais mettre ça haut. C'est pas le système le plus pratique du monde, ça. Hein. Dans le temps, ils avaient inventé des courants. Commande électrique, mais on a un peu perdu l'affaire. Bon. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire là? Alors, troisièmement, c'est ça? Ouais. État à valeur bien définie. Et autres états. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a des états qui ont une valeur bien définie, de G, enfin d'une grandeur physique, et d'autres non, et il va falloir comprendre ce que ça veut dire. Donc je vous l'ai dit, l'état alpha 1 G1 plus alpha 2 G2 n'a aucune valeur. De G, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'associer à cet état une valeur de G bien définie. Ça paraît problématique, mais pourquoi au fait? Logiquement, fondamentalement, rien n'impose au système physique d'avoir une valeur pour chaque grandeur, pour chaque grandeur physique. D'abord, bien sûr, j'écarte tout de suite le cas où la grandeur physique ne serait pas pertinente pour le système en question. Là, je parle bien d'une grandeur physique qui est pertinente pour le système. Et il y existe effectivement des états de ce système qui ont une valeur bien définie de la grandeur physique en question. Donc c'est une grandeur physique qui a une incidence sur le système. Hein. Donc il y a un lien, c'est pas un truc étranger au système. C'est pertinent pour le système, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que du point de vue de cette grandeur, ou disons des phénomènes physiques associés à cette grandeur, par exemple pour la température, ce serait la montée ou pas du mercure dans un thermomètre, d'accord? Donc il y a une incidence d'un certain contexte physique associé à la grandeur physique sur le système et réciproquement. Il y a une interaction effective entre le système et la grandeur physique, enfin le contexte de la grandeur physique. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas parce que la grandeur physique a un lien avec le système, et du coup dans tous ses états, que nécessairement le système doit avoir une valeur particulière. Tout ce que ça veut dire, c'est là qu'il faut se pencher un peu plus sur qu'est-ce que c'est que faire une mesure, que attribuer une valeur d'une grandeur physique à un système. Comment on fait pour mesurer? On fait interagir le système avec un instrument de mesure, avec quelque chose qui dépend de la valeur, de la grandeur. Encore une fois, j'ai un thermomètre, je le mets dans l'eau, et il y a une interaction qui se produit, et le système évolue, et je vais lire sur le nouvel état de l'instrument de mesure la valeur en question, si l'instrument est bien fait. Alors voyons comment se met en œuvre ce processus dans le cas d'un état de ce genre.
Monsieur,
oui. Oui, oui. Exactement, tout à fait. C'est une très bonne question, et si vous allez au bout de la question, vous allez découvrir une propriété que je voulais énoncer plus tard, mais que vous venez de découvrir, c'est que nécessairement, tous les GI qui ont des valeurs différentes sont orthogonaux les uns aux autres. Ils forment une base. Il est impossible de faire des combinaisons. Vous ne pouvez pas exprimer G1 comme une combinaison linéaire des autres. Exactement pour la raison que vous venez de dire. Mais je n'ai pas encore parlé de notion d'orthogonalité. Je ne veux pas parler tout de suite d'orthogonalité parce qu'on n'a pas encore défini de produit scalaire, par exemple. Il faudra évidemment le faire. Mais ce que vous dites est parfaitement juste. Si on pouvait exprimer G1 en fonction des autres, eh bien on aurait la contradiction que vous venez de dire. Oui ? Exactement, ça aussi c'est un point très très important. Quand on dit qu'il n'y a pas de valeur, c'est pas qu'on la connaît pas, qu'il y en aurait une mais qu'on la connaît pas. Alors c'est un état parfaitement possible du système, et c'est un état qui n'est pas essentiellement, ontologiquement, si je peux dire, différent des autres états. Exactement comme ce vecteur-là n'est pas différent de ces deux-là dont il est combinaison linéaire.
Mais du coup, comment ça se fait que, parce que si on a cet état physiquement devant nous, on va pouvoir avoir la valeur de G?
Alors, c'est exactement la question que je voulais poser. Que se passe-t-il? Parce que qu'est-ce qui nous empêche, avec le système dans cet état, de lui appliquer la procédure qui permet de mesurer la valeur de G? D'accord. Qu'est-ce qui nous empêche de plonger le thermomètre là-dedans? Et la réponse est rien, bien sûr. Rien nous empêche de faire suivre au système dans cet état la même procédure que ce qu'on fait suivre au système dans cet état-là et qui donne G1 et à celui-là et qui donne G2. Alors voyons qu'est-ce qui se passe si on fait suivre au système dans cet état la même procédure. Alors donc ça, en fait ça va être un grand 3. Du coup, quatrièmement, c'est ça? Problématique de la mesure. Je vous ai dit qu'on allait avoir un peu le vertige aujourd'hui. C'est en train de venir. Je sens que vous êtes chaud. Alors, petit 1, mesure et interaction. comment faire une mesure sur un système physique? Il faut le faire interagir le système avec l'instrument de mesure. Alors, je vais appeler S le système. Je vais appeler M l'instrument de mesure. M comme mesure. Que se passe-t-il donc? Alors, ce que je sais, c'est que par définition, si l'instrument de mesure est bien fait, lorsque je pars de l'état G1, donc je l'ai fait interagir, d'accord, interaction. Ce que je sais, si l'instrument de mesure est bien fait, c'est que si je pars de l'état G1, je vais obtenir pour l'état de l'instrument de mesure un état que je vais noter M de G1. Voilà. C'est l'état de l'instrument de mesure qui indique la valeur G1. Par exemple, si c'est un instrument de mesure avec une aiguille, ben, ça pointe vers la valeur G1 et du coup, ça me dit, ah, c'était G1. Si on part de G2, ben, l'aiguille va pointer vers G2 et c'est comme ça que je vais identifier que le système avait la valeur G2 bien définie. Donc si je pars de G1, j'ai un certain état sur l'instrument de mesure qui est M de G1. Si je pars de G2, je vais avoir un état sur l'instrument de mesure qui va être M de G2. Enfin, je note quête M de G2. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est l'état spécifique. Enfin, l'instrument de mesure permet de distinguer deux états du système qui ont des valeurs différentes de l'instrument de mesure, précisément parce que l'instrument de mesure se met dans un état, lui, qui révèle, enfin, qui est différent dans les deux cas, et c'est comme ça que je vois que ce n'était pas le même. C'est-à-dire que le système s'est comporté de façon différente vis-à-vis de l'instrument de mesure lorsqu'on les a mis en interaction. C'est vraiment comme ça qu'on fait une mesure, quoi. Hein. Donc, si je pars de G1, j'ai ça. Si je pars de G2, j'ai ça. Bon, ben si je pars de ça maintenant, si je pars de, je vais me remettre là, si je pars de alpha G1 plus, enfin de alpha 1 G1 plus alpha 2 G2, qu'est-ce que je vais obtenir? Ah ben là, c'est une évolution du système. On vient de voir que l'évolution était linéaire, comme il se doit. Par conséquent, si je pars de ça, l'instrument de mesure, il va se mettre dans quel état? Ben, très simple, hein, alpha 1 M de G1 plus alpha 2 M de G2. Si je pars de cet état, je vais là. Si je pars de cet état, je vais là. Enfin, attention, hein, ça c'est l'état du système, ça c'est l'état de l'instrument de mesure. Hein, mais d'accord. L'interaction à partir de cet état-là conduit à ça, l'interaction à partir de cet état-là conduit à ça, et donc l'interaction à partir de l'état alpha 1 ça plus alpha 2 ça conduit à alpha 1 ça plus alpha 2 ça, ce que j'ai écrit ici. Alors, question, c'est quoi cet état-là? Parce que ça veut dire que là, l'instrument de mesure, il est dans un état lui-même qui est une combinaison linéaire de j'indique G1 et j'indique G2. Alors, la linéarité de la physique nous dit que cette combinaison linéaire de j'indique G1 et j'indique G2, c'est la même que la combinaison linéaire, c'est les mêmes coefficients, que l'état G1 et l'état G2 pour le système. Mais néanmoins, qu'est-ce que c'est que cet état? C'est un vrai problème. Alors, il faut se pencher un petit peu plus rigoureusement sur le problème. En réalité, dès lors que les deux systèmes interagissent, j'ai plus un système S, un instrument de mesure M, j'ai un système plus complet qui est, donc je vais le noter, je sais pas, je vais l'appeler système global. Le vrai système, dès lors que je l'ai fait interagir, c'est en fait, je vais le noter S union M, vous comprenez bien ce que je veux dire, c'est l'ensemble du système. En fait, c'est ça la vérité. Enfin, si on veut être rigoureux, je ne peux pas dire que le système est indépendant, enfin, l'instrument de mesure est indépendant du système, puisque c'est précisément parce que je l'ai fait interagir que quelque chose se passe, et que cet instrument de mesure réalise la mesure. Donc quand je fais la mesure, je l'ai fait interagir, donc en fait, je dois considérer le système global. Alors, ceci est un système physique, il lui est donc associé un espace des états, qui est un espace vectoriel, dont chacun des états est un vecteur. Pareil pour l'instrument de mesure. Alors, je vais prendre une notation pour ces espaces vectoriels. Donc, le système... le système S est associé à l'espace des états que je note E, indice S. D'accord ? Donc ça, c'est l'espace des états. Le système M, donc c'est-à-dire l'instrument de mesure, est associé à un espace des états EM. Et le système global, S union M, est associé à un nouvel espace des états. Alors, quel est cet espace des états ? L'espace des états de S union M, on comprend bien qu'il n'est pas indépendant des espaces des états, de ces espaces-là. Mais quel est-il ? Alors, je vais utiliser une notation que je ne vais pas définir tout de suite, parce que pour la discussion que je veux faire ce matin, on n'en a pas besoin. Ça s'appelle un produit tensoriel. C'est, on verra ça proprement, ne vous inquiétez pas, mais on comprend bien qu'il y a un lien entre les deux. Je vais le noter tel qu'on le note, et je vais donc on met un fois avec un rond autour. Hein. C'est juste pour ceux qui nous intéressent ce matin, c'est juste une façon de dire que l'espace de l'ensemble du système global est lié aux deux espaces et que en gros, parmi les états du système global, il y a des états qui, il y a des, enfin, il y a, enfin, ça implique les états du système S et les états du système M, enfin, de l'instrument de mesure. Hein. Donc, vous pouvez presque lire ce foie-là comme E. C'est pas tout à fait ça. Ce qu'on verra, c'est qu'en fait, l'espace des états du système global est en fait plus riche que simplement la juxtaposition des états des deux systèmes. Et dans ce plus riche, il y a quelque chose d'essentiel en physique quantique, qu'on appelle l'intrication, et dont on parlera. Mais pour l'instant, prenez-le comme une notation, c'est juste une façon de se rappeler que ce système a des états qui sont évidemment liés aux états des systèmes individuels que l'on combine. Alors, prenons un état particulier. Je vais vous donner un exemple d'état du système S union M. Un état qui ne va pas vous surprendre. Exemple d'état, donc. Je vais prendre l'état que je vais noter avec le même signe. Encore une fois, le sens mathématique précis viendra plus tard. Ce n'est pas important pour notre discussion d'aujourd'hui. Je vais le noter. G1 croix M de G1. Vous voyez ce que j'ai fait ? J'ai pris pour le système S, pour le système que je mesure, l'état G1, c'est-à-dire l'état qui a une valeur bien définie de G qui se trouve être G1. Et pour l'instrument de mesure, j'ai l'état qui est exactement l'état dans lequel se retrouve l'instrument lorsqu'il est mis en interaction avec le système dans l'état G1. C'est-à-dire qu'un état qui a une... Ça, c'est un état qui a une valeur bien définie, et quand on le fait interagir avec le système, on se retrouve avec un état du système bien défini, un état de l'instrument de mesure bien défini, qui est l'état qui indique que le système était dans la valeur G1. D'accord ? Si l'instrument de mesure est bien fait, si on mesure cet état-là, on va obtenir ça. Bon, donc ça, c'est un exemple d'état, je le note avec ce croix, là, qui, encore une fois, vous pouvez quasiment le lire comme « et ». Cet état, c'est l'état qui, pour le système mesuré est dans l'état G1, et pour l'instrument de mesure, il est dans l'état j'ai mesuré G1. Rien de très, très surprenant. Un autre exemple d'état, eh bien l'état G2 croix M de G2. C'est quoi cet état ? C'est l'état qui dit que le système est dans l'état G2, et l'instrument de mesure, il est dans l'état j'ai mesuré G2. Donc typiquement, c'est ce à quoi on peut s'attendre lorsque effectivement on effectue la mesure pour de vrai et qu'on obtient qu'on lit sur l'instrument de mesure ce résultat-là. D'accord. Alors maintenant, on va appliquer le principe de combinaison et surtout le fait que l'évolution des systèmes est linéaire. Donc ce que je vois maintenant, c'est que si je pars de l'état G1 sur le système et d'un état neutre pour l'instrument de mesure, c'est-à-dire l'état qu'il veut. Au début, le système n'interagit pas avec l'instrument de mesure. Donc le système est dans l'état G1 et l'instrument de mesure dans un état neutre. Je ne sais pas, je vais l'appeler M0, peu importe. Je les mets ensemble et je récupère en fait cet état-là. Donc je récupère G1 croix M de G1. Si j'étais parti d'un système avec une valeur bien définie de G1, la mesure serait déroulée comme ça se passe toujours en physique classique. Si j'étais parti de G2, excusez-moi, je réécris plusieurs fois la même chose, mais c'est pour vous voyez bien la démarche, j'obtiendrais cet état-là. Et par conséquent, maintenant, si je pars de alpha1 G1 plus alpha2 G2, eh bien j'obtiens l'état, sans surprise, alpha1 fois ça, plus alpha 2 fois ça. Alors, vous devez avoir l'impression que je fais qu'écrire toujours la même chose, mais vous noterez une différence entre ça et ça, c'est que ça, c'était pas tout à fait rigoureux, parce que là, je vous ai donné l'état de l'instrument de mesure, mais en fait, c'est pas vrai. Parce que dès lors que j'ai eu l'interaction entre l'instrument de mesure et le système, je peux pas considérer le système tout seul. Il a interagi avec, l'instrument de mesure tout seul. Donc je peux pas nécessairement attribuer au système, à l'instrument de mesure, cet état-là. Donc ça, ça, c'était la première intuition, mais ensuite on s'est penché plus précisément sur le processus. On a vu que la procédure de mesure consiste à faire interagir le système avec l'instrument de mesure, et donc il faut considérer l'ensemble du système, et à ce moment-là, quand on fait les choses proprement, voilà l'état auquel on arrive. C'est donc une combinaison linéaire de l'état où le système est dans l'état G1 et l'instrument de mesure a mesuré G1, normal, puisque le système est dans l'état G1, et de l'état où le système est dans l'état G2 et l'instrument de mesure a mesuré G2, normal, puisque le système était dans l'état G2. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que cet état? Parce que voilà, ce que nous dit la physique quantique, c'est que voilà l'état du système global S union M, c'est-à-dire système mesuré et instrument de mesure ensemble. Voilà son état. Si tout ce qu'on a dit depuis le début est vrai, et tout ce qu'on a dit depuis le début est vrai, voilà, enfin, disons, si l'idée de faire des combinaisons linéaires a un sens, enfin, quand je dis c'est vrai, c'est pour autant qu'on sache aujourd'hui, hein, peut-être un jour on changera de théorie, enfin, espérons-le d'ailleurs. Mais enfin, bref, la physique quantique nous dit que voilà l'état du système global, instrument de mesure plus système. Ok, okay, mais alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Est-ce que vous avez déjà vu un état comme ça? Est-ce que vous avez déjà regardé le résultat d'une mesure et vous êtes tombé sur ça? En fait, on ne sait même pas quel sens donner à ça. Oui?
Ça ne veut pas dire que, par exemple, quand on prend la température d'un verre d'eau, je ne sais pas, qui est censée être à 25 degrés, notre thermomètre, il a aussi une température. Du coup, quand on met le thermomètre dans l'eau, ça va influer sur le système.
Oui, ça va influer, c'est vrai. J'ai implicitement supposé ici que l'instrument de mesure était parfait, c'est-à-dire que si on a un système qui a une température T, et qu'on le mesure la température T, on trouve T. Voilà. Donc je supposais que la modification est minimale, why not? Enfin, d'accord. Implicitement, j'ai supposé que... Enfin, ça, c'est l'état qui révèle la température T. D'ailleurs, enfin, ça, c'est l'état qui révèle la valeur G1. C'est pour la température, ouais, peut-être qu'en fait, quand on révèle la température T, en fait, on n'affiche pas T, mais T' parce qu'il y a eu une modification. Mais en tout cas, il y a une équivalence entre l'état final et l'état qu'il y avait au début. Et donc, ouais.
On est dans un état quantique, c'est-à-dire que l'observation du système va changer l'état du
système. Alors, c'est bien cette problématique-là dont je veux parler, et je veux en parler tout de suite, enfin, disons, dès le début de ce cours, parce que c'est quelque chose de vraiment capital. Vous avez dit, on observe le système et donc il peut éventuellement se passer quelque chose. Alors effectivement, soyons encore plus rigoureux. Qu'est-ce qui nous dit que le système global, système mesuré et instrument de mesure, n'est pas dans cet état-là? La physique quantique nous dit qu'il est dans cet état-là. Eh bien, il est dans cet état-là. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui est choquant, après tout, que le système soit dans cet état-là? C'est ce que nous dit les lois de la physique. Enfin, c'est ce que nous dit la linéarité. J'ai encore rien dit quasiment sur la physique quantique. J'ai juste dit, on peut faire des combinaisons linéaires. Et on ne fait que dérouler les conséquences. Donc, ok, le système est dans cet état-là. Vous avez jamais vu ça? Bah, normal. Parce que ça, c'est pas le système de vous qui regardez l'instrument de mesure. Ça, c'est l'état du système. C'est l'état du système S union M. C'est l'état de l'ensemble système et instrument de mesure. Maintenant, si vous vous posez la question, mais quand même, si je regarde le résultat, je vais voir quoi? Ah, attendez! Si vous regardez le résultat, c'est plus pareil. Il y a un autre système. Il y a vous. Et ça change tout. Alors voyons ce qui se passe maintenant. Donc, on a le système. On fait une mesure. Disons, on établit la procédure de la mesure. Donc, on fait interagir le système avec l'instrument de mesure et on obtient ça. Mais maintenant, vous voulez prendre connaissance du résultat de la mesure. C'est pas pareil. Du coup, il va falloir que vous interagissiez avec ce système-là. Alors, voyons. Oui ? Oui. Avec alpha 3 et alpha 4. Oui, oui, absolument. Oui, oui, c'est la même combinaison linéaire, c'est une évolution linéaire, comme je l'ai écrit au début pour l'opérateur U d'évolution du système. Ok, alors. Bon, je me suis perdu dans le compte, mais c'est pas grave. Allez, je vais appeler, je sais plus à combien j'en suis. 5. Alors, interprétation de la mesure. Donc, si vous voulez prendre connaissance du résultat de la mesure, il va falloir que vous, observateurs, vous interagissiez avec le système S union M. Donc le système S union M, système et instrument de mesure, il est dans cet état-là. Et maintenant, vous voulez regarder. Donc je vais écrire ça, union l'observateur. Donc maintenant, il y a l'observateur en plus. Et vous allez intriquer tout ça, c'est-à-dire vous allez faire interagir l'observateur avec l'instrument de mesure. Typiquement, ça peut être aussi simple que vous regardez. D'accord? Mais regarder, ça va vous porter, vous, dans un autre état. Avant de regarder, vous êtes dans un certain état. Votre état physique intervient peu, c'est-à-dire que votre bras soit là ou là, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ce qui va être modifié de façon pertinente et déterminante, c'est, alors je mets des guillemets parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est votre état de conscience. C'est-à-dire que avant d'avoir regardé, vous ne savez pas, et après avoir regardé, vous savez. Prenons le cas simple où le système est dans un état bien défini, avec une valeur bien définie de G. Donc, si on part de l'état G1, qui est un état avec une valeur bien définie. Donc là, il va se passer des choses absolument pas surprenantes. Il va se passer que l'instrument de mesure va voir que le système était dans l'état G1, il va se mettre dans l'état j'ai vu G1. Donc on va obtenir l'état, alors le système est dans l'état G1, l'instrument de mesure, il est dans l'état j'ai vu G1, et vous, qui regardez l'instrument de mesure, vous allez vous mettre dans l'état O de j'ai vu G1. Enfin, oui, c'est ça, je suis dans l'état qui a perçu que l'instrument de mesure indique G1. D'accord ? Enfin, donc je le note O de M de G1, enfin je pourrais l'appeler O de G1, enfin, bon, vous voyez de quel état il s'agit. Donc l'état est dans le système G1, l'instrument de mesure indique que l'état est dans le système G1, puisqu'ils ont interagi ensemble, c'est fait pour, et moi qui ai regardé, j'ai vu que le système est dans cet état-là. Oui ?
On est d'accord que l'état G1 et l'état MG1 sont différents.
Oui, oui, c'est des états qui sont pas... C'est l'état du système... du système de mesure, l'instrument de mesure, ça c'est l'état du système de départ.
Et pourquoi l'observateur ne voit pas l'état MG1 et l'état...
Vous avez raison. Oui, enfin, d'accord. Je pourrais écrire. J'ai vu. Ça peut être. Oui, l'état, ça peut être ça, quoi. C'est ça que vous voulez dire ? C'est l'état, j'ai vu les deux. Alors. J'avais mis simplement M de G1 parce que, typiquement, quand vous faites une mesure sur un système quantique, vous regardez le résultat de mesure. Vous lisez l'instrument, vous ne regardez pas le système quantique lui-même, vous ne le voyez pas. Donc, ce que vous voyez, c'est le résultat de la mesure. Donc, effectivement, ouais, je vais quand même laisser ça. La procédure, c'est, je fais interagir l'instrument de mesure avec le système. Du coup, il se met dans un, enfin, le système global se met dans un certain état, et moi, je regarde le résultat de l'instrument de mesure. D'accord ? Donc, je préfère le laisser comme ça, mais évidemment, cet état-là n'est pas indépendant de ce qu'il y avait au début. Et justement, l'instrument de mesure s'est mis dans cet état-là parce que le système était dans cet état. Il y avait une autre question, non ? Non ? Ok. Donc, si je pars de G1, j'obtiens ça. Maintenant, si je pars de l'état G2, qu'est-ce que j'obtiens ? Bah, j'obtiens très naturellement, l'instrument de mesure va m'indiquer, va pointer dans la direction fidèle à l'état de départ, puisque c'est un état qui a une valeur de G bien définie, et puis l'observateur va voir que le système est dans l'état G2. Je vais l'appeler O de G2, c'est plus simple, et là je vais l'appeler O de G1. Comme ça, en fait, c'est valable aussi si vous voulez regarder en même temps l'état. Mais regarder l'état, ça ne veut rien dire. En gros, ça veut dire que, in fine, c'est nous l'instrument de mesure. On mesure le résultat d'un instrument de mesure, mais si on le regarde pas, il n'y a pas eu de mesure, il y a eu une interaction. Voilà, donc jusque-là, tout est normal. Si je mesure un système dans l'état G1, je vais voir ça. Et si je mesure un état dans le système G2, le système dans l'état G2, je vais voir G2. Oui ?
Est-ce que l'ordre a son importance ?
Non, l'ordre n'a pas d'importance. Non. Ça, c'est ce produit tensoriel, je pourrais prendre l'inverse, ça ne change rien. Donc, c'est juste une notation qui veut dire « et », pour l'instant.
On observe un état ou une valeur ?
Alors, bonne question. C'est quoi ? La question, c'est, on observe un état ou on observe une valeur ? En réalité, vous mettez le doigt sur un problème colossal auquel la physique ne peut rien, c'est le problème de la conscience. En fait, quand vous dites, je lis sur le thermomètre 20 degrés, c'est juste que vous avez cette perception, vous êtes dans un état de conscience que vous interprétez comme vous voyez l'état, mais enfin c'est juste les mots qu'on met là-dessus, mais en réalité vous avez changé d'état et dans votre nouvel état vous avez connaissance d'une valeur G1. C'est bien ça qui se passe. Donc je sais pas le décrire mieux, mais il n'y a pas besoin de le décrire mieux. C'est mon état, je suis dans l'état de conscience particulier qui est j'ai vu G1. Oui.
Bah,
c'est le cas, l'instrument de mesure, il sort G1. J'ai dit que il pointe dans la direction, mais ça peut être, il peut afficher sur un écran la valeur de G1. Enfin, il se met dans un état caractéristique de l'état du système. Et ensuite, moi, je regarde ce nouvel état. Je prends connaissance du nouvel état de l'instrument de mesure, et ça change mon état intérieur. Lorsque l'instrument de mesure est dans l'état M1, M2, G1, je me retrouve dans un état qui est, j'ai pris conscience de ce résultat. Je ne sais pas comment le décrire celui-là, mais peu importe. Quand vous regardez votre téléphone pour voir quelle température il fait dehors, parce que maintenant il y a besoin d'un téléphone pour savoir la température. Vous voyez 8 degrés. Et donc, je ne sais pas comment vous voulez décrire l'état de vous qui savez que c'est 8 degrés, mais c'est celui-là que j'appelle O de G1. Voilà. Vous avez acquis, d'une façon ou d'une autre, vous avez acquis la connaissance de l'état du système, et ça vous a mis dans un autre état, dans lequel, maintenant, vous avez la connaissance du système. Ouais. Et oui, in fine... Oui, un produit tensoriel qui sort. Oui, sauf que si vous voulez connaître la température de l'eau, il ne suffit pas de la regarder. Donc il faut un instrument de mesure qui va révéler, il faut un contexte physique qui va dépendre de la grandeur physique en question. Et en général, ce n'est pas vous, mais ça pourrait être vous. Si la mesure, c'est je touche l'objet, je vois s'il est chaud, ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas très quantitatif. On peut voir, c'est un peu plus... Mais si, à ce moment-là, oui, il sauterait un élément. Oui, ah oui, non, cet observateur-là, si c'est vous qui regardez l'instrument de mesure, c'est vous. Si c'est moi, c'est moi. Si c'est votre chat, c'est votre chat. Ah oui, alors là, c'est autre chose maintenant. Vous avez fait la mesure. Le système était dans cet état-là. L'instrument de mesure s'est mis dans cet état-là. Et vous l'avez vu, vous êtes maintenant dans cet état-là. Moi, si je vous regarde, enfin, tant que je vous demande pas, je ne sais pas. Donc moi, je suis toujours dans un état neutre qui n'a aucune connaissance de tout ça. Maintenant, si je vous demande, ou si je regarde avec vous, alors je vais me rajouter là. L'observateur 2 a entendu que l'autre avait vu ça. Et puis l'autre a pu mentir, mais peu importe. Ça m'a mis... Oui, mais c'est pas grave. Ça fait pas... Enfin, c'est des états standards des systèmes que nous sommes. D'accord ? Ok. Bien, alors poursuivons. J'espère qu'on va avoir le temps quand même d'aller... Ouais. Poursuivons. Donc, si maintenant on part de l'état alpha G1 plus alpha 1G1 plus alpha 2G2, parce que c'était quand même ça notre idée au départ, que se passe-t-il si donc on part de cet état? Eh bien, très naturellement, on va se retrouver dans l'état alpha 1 ça plus alpha 2 ça. Je note M1 pour faire plus vite et je note O1. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On est d'accord, c'est ce que nous dit la physique quantique. C'est juste l'application de la linéarité. Et maintenant, c'est quoi cet état? Parce que là, c'est la combinaison entre deux états. Un où l'observateur a pleinement conscience d'avoir vu G1, puisque le système était dans l'état G1 et l'instrument de mesure a révélé l'état, la valeur de la grandeur G dans l'état en question. Et d'un état où l'observateur a pleinement conscience d'avoir vu G2. C'est-à-dire, cet état-là, c'est l'état dans lequel se trouverait l'observateur si le système était effectivement dans l'état G2. Cet état-là, c'est celui-là. Enfin, ça, c'est juste la combinaison linéaire de ça. Donc là, vous avez un état où j'ai pleinement conscience d'avoir vu G2. Là, c'est un état où j'ai pleinement conscience d'avoir vu G1. Sauf que mon état, c'est pas celui-là, ni celui-là. L'état global du système, c'est tout ça. On est d'accord. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un état où vous avez pleinement conscience d'avoir vu un truc, plus pleinement conscience d'avoir vu un autre truc? Alors, oui. Alors, ça, c'est l'état du système global S, union M, union O. C'est-à-dire que le système, oui, le système était dans cet état-là. L'interaction avec l'instrument de mesure a réalisé on appelle ça intriqué, mais a intriqué les deux systèmes S et M et a porté ce système-là global dans l'état celui-ci. Et ensuite, l'interaction de ce système, de ce premier système global avec nous, apporter le système global, nous plus l'instrument de mesure plus système, dans cet état-là. Et là, la question donc se pose, quel est le sens de cet état? Qu'est-ce que c'est que ça? Réponse, nobody knows. C'est le cœur. Alors, donc, on ne sait pas ce que c'est cet état. Et donc... Enfin, ça fait 100 ans à peu près qu'on se pose la question, 90 ans exactement, à peu près. Et la réponse est qu'effectivement, on ne sait pas trop ce que c'est que cet état-là, mais ce n'est pas totalement étonnant qu'on ne sache pas, parce que tout ce qu'on peut savoir, tout ce qu'on est capable de percevoir et de se représenter consciemment, c'est précisément nos états de conscience, mais en voilà, le voilà notre état de conscience. Et puis voilà, et le voilà aussi notre état de conscience. Le problème, c'est que là, il y a deux états de conscience contradictoires qui ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui a vu G1, l'autre qui a vu G2. Et sauf que notre état, mais l'état du système global, inclut ces deux états de conscience contradictoires. Alors là, donc là, les avis divergent, oui. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il faut jamais dire si on est à la fois dans un état et dans un autre. Le chat Schrödinger, il n'est pas à la fois mort et vivant. Il est dans un état parfaitement bien défini, alpha mort plus bêta vivant. Parfaitement défini, c'est un état tout à fait standard. La question c'est, qu'est-ce que c'est? Alors pour le savoir, on va regarder. On ouvre la boîte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve dans l'état alpha, le chat est mort et je l'ai vu mort, plus bêta, le chat est vivant et je l'ai vu vivant. Qu'est-ce que c'est que cet état? Alors là, donc il y a typiquement deux interprétations, deux types d'interprétations, oui. Oui, la seule chose, c'est que en physique classique, on n'a pas cette liberté de... Enfin, tout ça, la façon dont se réalise une mesure, c'est pareil en physique classique. La différence, c'est qu'en physique classique, on n'a pas la liberté de faire des combinaisons d'états. Et donc, en physique classique, on dirait cet état-là, qui n'a aucune valeur de G bien définie, cet état, juste, il n'existe pas. En physique classique, j'ai commencé par ça le premier jour, en physique classique, les états du système sont reliés de manière biunivoque à un jeu de valeurs de grandeur physique. Les états du système sont caractérisés par la valeur des grandeurs physiques. Et donc, si vous mesurez la grandeur physique d'un système qui a telle valeur, eh ben, vous allez obtenir la valeur en question. Le truc, c'est que en physique quantique, vous pouvez faire des combinaisons d'états, et par conséquent, ok, ça a une valeur de G bien définie, G1, ça aussi, G2, mais puisque vous pouvez faire une combinaison linéaire, vous avez aussi cet état-là. Or, cet état-là n'a pas de valeur bien définie. Et c'est ça la différence. Mais après, ce qu'on a dit, c'est, ok, il n'a pas de valeur bien définie, mais on peut quand même le faire interagir avec l'instrument de mesure. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Alors, ok, faisons-le. Eh ben, on l'a fait interagir avec l'instrument de mesure. D'abord, il s'est passé ça. Il s'est passé ça. Puis après, on a dit, bah, très bien, mais comment moi je peux voir à quoi ça représente? Bah, il n'y a qu'à regarder. Et si je regarde, bah, il se passe ça. Et donc, c'est ça l'état du système. Oui?
L'exemple du chat Schrödinger,
Enfin, dans une combinaison. Je préfère combiner parce que c'est juste une combinaison linéaire. Mais oui, oui. Ouais. Alors, justement, alors, j'y viens. Quand on ouvre la boîte et qu'on se demande est-ce qu'il est mort ou il est vivant, à ce moment-là, on interagit avec le système global, enfin, avec le système chat. D'accord ? Et donc, s'il était dans l'état vivant, si le chat est dans l'état vivant, je vais voir, je vais être dans l'état, j'ai vu vivant. S'il est dans l'état mort, j'ouvre la boîte, je vais voir, j'ai vu mort. Normal. S'il est dans l'état alpha mort plus bêta vivant, je vais être dans l'état alpha, j'ai vu vivant. Enfin, je vais plus rigoureusement, on va se retrouver dans l'état. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus moi tout seul, il y a moi et le chat, on a interagi, donc c'est le système global, moi et le chat. Ce système global va être dans l'état alpha mort croix, j'ai vu mort, plus bêta vivant, donc ça c'est le chat, l'état du chat vivant, croix, j'ai vu vivant. Non, ça c'est quand j'ai vu la boîte. J'ai interagi. Alors attendez. Ça, c'est ce que nous dit la physique quantique. Maintenant, effectivement, qu'est-ce que c'est que cet état? Parce que moi, j'ai jamais eu conscience. Je ne sais pas ce que ça représente. Être dans un état superposé de j'ai vu vivant et j'ai vu mort. Mon état, enfin, je ne sais pas ce que c'est que cet état de conscience et je n'en ai jamais fait l'expérience de fait. Mais en fait, peut-être que si, on en a peut-être fait l'expérience, mais juste on ne sait pas l'interpréter. Alors, c'est là qu'interviennent les interprétations de la physique quantique, c'était le cinquième mot. Donc, y a deux façons de voir les choses. Je vous avais dit qu'on allait avoir un peu de vertige. Première interprétation, ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague. L'interprétation de Copenhague dit la chose suivante. Elle dit, écoutez, cet état-là, où je suis dans une combinaison linéaire de j'ai vu un truc, j'ai clairement perçu G1 parce que le système était dans G1 et l'instrument de mesure a pointé vers G1. Et l'état, j'ai clairement vu G2, etc., etc. Cet état, je ne sais pas ce qu'il veut dire, j'ai jamais fait l'expérience. Donc d'une façon ou d'une autre, et c'est vraiment d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais il se passe un truc bizarre. En fait, quand je fais une mesure et que je regarde le résultat de la mesure, à partir du moment où je suis impliqué, là, par exemple, eh bien, il se passe un truc qui viole le principe de combinaison. Quelque chose de différent se passe dans la physique. Le fait que je fasse la mesure et que je regarde le résultat de la mesure change la donne, et d'une façon ou d'une autre, il y a une des composantes qui dégage. Il y a une des composantes qui disparaît. Par exemple, ça. Et du coup, ben, je me retrouve soit avec ça, soit avec ça, ça peut être l'autre qui dégage, mais vu que ça, je ne sais pas trop quel sens ça a, et puis j'ai jamais vu cette chose-là, donc l'interprétation de Copenhague postule, c'est un postulat, à l'occasion d'une mesure, l'une des composantes, enfin, donc s'il y a deux composantes, il y en a une qui dégage. S'il y a 12 composantes, il y en a 11 qui dégagent. Il en reste une. Hein. Donc, toutes les composantes, sauf une, disparaissent. Oui. Alors, et effectivement, à l'occasion d'une mesure, toutes les composantes sauf une disparaissent, et ceci aléatoirement. Alors, aléatoirement, avec des probabilités particulières, je commence ce point après. Oui.
Par exemple, si on prend sur le chat Schrödinger, admettons qu'il y a alpha mort et bêta du nom, admettons que le bêta du nom disparaît, il reste alpha mort, ça veut dire quoi que le chat soit alpha mort, enfin, le alpha
est... ouais, non, mais c'est une bonne question, mais vous voyez que du coup, on sélectionne cette branche-là, et dans cette branche-là, le chat est mort, l'instrument de mesure, enfin, si c'était dit qu'il est mort, et moi j'ai vu qu'il était mort. Enfin, voilà. Donc, qui est alpha ou pas, ça ne change rien. Alors, on verra qu'en fait, si vous avez l'état psi et l'état alpha psi, en fait, c'est le même état. On verra ça proprement plus tard. Alors, pardon, oui.
Juste là, on parle d'un observateur, et pour cet exemple-là, si un autre observateur voit la même chose, mais qu'il y ait l'autre qui part, enfin,
alors, c'est une excellente question. Si un autre observateur, regarde aussi dans la boîte, regardez ce qui se passe en fait. Si le système était dans l'état G1, donc vivant, si c'était un état pur G1, voilà. Donc l'instrument de mesure verrait G1, l'observateur. Le premier observateur verrait G1 et l'autre observateur verrait G2. Verrait G1, pardon. Je vais l'appeler O'. Pour pas... D'accord ? Si l'état était clairement celui-là, tout le monde verrait ça puisque c'est l'état du système. Si l'état était G2, chat mort par exemple, eh bien le premier observateur verrait qu'il est mort puisqu'il est mort et le deuxième verrait aussi qu'il est mort puisqu'il est mort. D'accord ? Et donc maintenant, si le système c'est alpha G1 plus bêta G2, eh bien on aura alpha ça plus bêta ça. Donc vous verrez que... D'accord ? Et par conséquent, vous n'aurez pas OG1 et O' de G2. L'état auquel vous aboutissez, c'est la combinaison de celui-là, qui est ce que vous auriez si vous étiez parti de G1, et celui-là, qui est ce que vous verriez si vous étiez parti de G2. Si vous partez de alpha G1 plus bêta G2, vous obtenez alpha ça plus bêta ça. Oui, mais vous voyez, ça c'est l'état global du système et instrument de mesure et les deux observateurs, si on part de l'état G1. D'accord ? Si on part de l'état G1, on a ça, vous êtes d'accord ? Puisque tout le monde, enfin, c'est un état standard qui a une valeur bien définie, tout le monde la voit, et tout va très bien. Si on part de G2, on est dans cet état-là. Normal. Les deux vont voir G2, puisque le système est dans l'état G2. Maintenant, la question, c'est que se passe-t-il si je pars de alpha G1, de alpha 1 G1 plus alpha 2 G2 ? Réponse, le système va évoluer de façon linéaire, donc je vais obtenir alpha 1, ce que j'aurais obtenu si j'étais parti de là, plus alpha 2, ce que j'aurais obtenu si j'étais parti de là. C'est-à-dire... alpha 1 ça, plus alpha 2 ça. Et donc vous voyez que vous avez toujours deux composantes, normal, vous êtes parti de deux composantes, vous avez toujours deux composantes, mais ces composantes, dans chacune de ces composantes, les deux observateurs ont vu la même chose. Il n'y a pas ici une composante O de G1 au prime de G2. C'est juste parce que c'est comme ça, c'est la conséquence de la linéarité. En fait, ça vous garantit qu'il n'y aura jamais un conflit entre les deux observateurs. Oui.
Mais en fait, s'il y avait un deuxième observateur qui a vu lui-même cet état, c'est-à-dire que ce n'est pas l'observateur 1 qui lui a dit l'état.
Non, c'est lui qui regarde.
Mais si c'est lui qui regarde, normalement, l'observateur 1, il
ne rentre
pas en jeu. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ah bah, s'il
n'y
a pas...
Oui. Entre l'observateur 1 et l'observateur
2. Oui.
C'est par exemple, moi, je suis mon expert,
Ouais. Je suis d'accord, mais Mais regardez comment ça se passe. J'ai simplement appliqué le théorème de superposition. C'est-à-dire, j'ai dit que l'évolution du système à partir d'un état combiné, c'est la combinaison des états. C'est la combinaison des évolutions. Donc, à nouveau, si je peux me remettre là, si le truc, c'est que vous savez précisément décrire l'évolution du système, vous pouvez décrire parfaitement toute la procédure dans le cas où le chat est clairement vivant, il est vivant, c'est tout, il est vivant. Donc, s'il est vivant, vous ouvrez la boîte, vous le voyez vivant. Puis, une heure plus tard, votre collègue arrive et il regarde. Il va voir vivant, le chat est vivant. D'accord ? Donc, si le chat est vivant, vous et votre collègue, quelle que soit la manière dont, si lui ferme les yeux quand vous ouvrez la boîte, ou s'il vient plus tard, ou si c'est lui qui vient en premier, le chat est vivant. Donc, si le chat est vivant, vous allez tous les deux le voir vivant. On est d'accord ? Puis, si le chat est mort, quelle que soit la manière dont vous procédez, vous allez tous les deux le voir mort, parce qu'il est mort. Ah bah si, entre-temps, il est mort, d'accord. Oui, ok. Non mais, oui. Mais à ce moment-là, vous le verrez mort aussi. Ah bah oui. Oui, mais ça, c'est standard. Si vous le voyez vivant, vous sortez de la pièce, l'autre vient, il est mort, bon bah, c'est qu'il est mort entre-temps. Pardon ? Chut. Deux systèmes indépendants. Non, mais c'est-à-dire... Non, le truc, c'est que là, vous introduisez un élément supplémentaire qui est que le système du chat peut évoluer entre les deux moments où vous regardez. Donc, le chat a le droit de mourir. Il peut même ressusciter, c'est plus rare, mais... je voudrais juste finir ça. Vous me donnez, parce qu'on est un peu débordé, mais vous me donnez 2 minutes. Ah non, mais il est 15, ça va. Vous me donnez juste 2 minutes. Non, c'est mieux que d'aller manger, ça c'est de la nourriture quand même un peu plus substantielle. Ça nourrit pas le corps, mais ça nourrit l'âme. S'il vous plaît, c'est important vraiment de comprendre ça. Donc, parce que si je dois redémarrer lundi, il va falloir que je réintroduise tout un tas de trucs, on va perdre beaucoup plus de temps. Alors, donc, ce que nous dit la physique quantique, c'est que l'état du système dans lequel on se retrouve, du système global, système, instrument de mesure, observateur, c'est ça. C'est la combinaison linéaire en question. On ne sait pas ce que ça veut dire. Une interprétation consiste à dire, écoutez, en fait, ce qui se passe, d'une manière ou d'une autre, il doit y avoir un truc qui disparaît là. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais ça se passe comme ça. C'est peut-être lié à la conscience, c'est peut-être lié au fait qu'on ait un instrument de grosse taille, etc. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il doit se passer un truc qui revient à supprimer toutes les composantes pour n'en garder qu'une. Parce que là, pour le coup, si j'en garde une, bah, je sais très bien ce que c'est. Je suis dans un état de conscience bien défini. Enfin, j'ai pris connaissance d'une valeur bien définie du système qui correspond à la position bien définie de l'instrument de mesure, qui correspond à l'état bien défini du système. Voilà. Donc, ça, c'est l'interprétation de Copenhague. D'une façon ou d'une autre, à l'occasion d'une mesure, toutes les composantes sauf une disparaissent, et ceci aléatoirement, avec des probabilités qu'on précisera après. Une autre possibilité, petit b, interprétation d'Everett. Alors pourquoi pour Copenhague ? Parce que c'est essentiellement Niels Bohr avec Werner Heisenberg, avec d'autres, dans les années 1925-1927, qui a formulé ça et qui a approfondi un peu cette idée. Et Niels Bohr est un physicien quantique absolument génial, qui est danois et qui travaillait à Copenhague, et donc les gens venaient lui rendre visite là-bas. Enfin bref, tout ça s'est élaboré à Copenhague en quelque sorte. Donc on appelle ça l'interprétation de Copenhague. L'interprétation d'Everett. Chut, s'il vous plaît. L'interprétation d'Everett, c'est l'interprétation qui a été avancée la première fois par Hugues Everett, un physicien américain, dans sa thèse. Il faisait une thèse avec John Wheeler, un autre immense physicien, Et dans sa thèse en 1957, il a proposé l'interprétation donc, qu'on appelle aussi interprétation des mondes multiples. Qui consiste à dire, écoutez, la physique quantique, elle fonctionne à chaque fois qu'on fait des expériences, tout le formalisme de la physique quantique fonctionne, on voit des états superposés tous les jours, depuis des décennies, du matin au soir, des dizaines de milliers de physiciens partout dans le monde voient ce genre de choses. Il n'y a aucune raison de supposer que un instrument de mesure se comporte autrement qu'un système quantique, puisque c'est un système quantique. Il n'y a aucune raison de penser que nous, quand nous observons un système quantique, d'un seul coup, les lois de la physique changent parce qu'on a décidé que tel instrument, il faisait une mesure, etc., et que nous-mêmes, nous sommes très spéciaux, nous sommes un système très spéciaux. Il n'y a aucune raison de supposer que les lois de la physique changent de façon... Enfin, voilà, comme ça. Et par conséquent, cet état, c'est l'état du système. Juste, il y a effectivement deux composantes. Une où j'ai pleinement conscience d'avoir vu le chat vivant et une où j'ai pleinement conscience d'avoir vu le chat mort ou d'avoir mesuré G1, d'avoir mesuré G2, eh bien tout ça, c'est l'état du système et puis c'est tout. Et donc, alors, tout se passe comme si, à partir du moment où je fais la mesure, bah, il y a deux composantes du monde. Une où tout se passe comme si le système avait été dans l'état G1. Et une où tout se passe comme si le système avait été dans l'état G2. Si le système avait été dans l'état G1, l'instrument de mesure aurait mesuré G1 et j'aurais vu G1. S'il avait été dans l'état G2, l'instrument de mesure aurait vu G2 et aurait mesuré G2 et j'aurais vu ça. Eh bien voilà, il y a les deux en parallèle qui vont continuer à se développer. Et puis quand je fais une autre mesure, eh bien voilà, donc c'est... Alors, il faut faire attention, des fois les gens interprètent ça en disant ah ben, y a, le monde s'est dédoublé, maintenant il y a deux mondes, et il y a un monde dans lequel la réponse était oui, et dans l'autre monde, la réponse était non. Il faut faire attention que ce n'est pas vraiment ce que dit l'interprétation. L'interprétation, en fait, dit la physique quantique nous dit qu'on a un système qui est celui-là, et ce système est dans un état qui est une superposition. Mais on admet qu'il y a des superpositions d'états pour n'importe quel système, pourquoi pas pour des systèmes qui impliquent l'observateur. C'est pas qu'il y a d'un seul coup, il y a deux mondes. Il n'y a qu'un monde, juste on est dans un état qui est une combinaison de deux états. Oui, c'est très très standard en physique quantique. Alors, donc, ça souffre d'un problème terrible. C'est qu'il faut arbitrairement postuler que les lois de la physique changent du tout au tout. Et en plus, il y a un autre problème, je voulais avoir le temps de le faire aujourd'hui, c'est pas grave, on fera lundi. L'autre problème, c'est que du coup, vous voyez que vous pouvez partir... Enfin, dans l'interprétation de Copenhague, bon, bah, y a une voie qui a disparu, donc il ne reste que ça. Et vous voyez que le système, du coup, se trouve dans le même état que si il était parti de G1 tout court. Donc, c'est-à-dire que vous partiez de G1 pur ou de alpha G1 plus alpha G2, vous arrivez au même état. Donc, deux états différents donnent le même état final. C'est-à-dire que la physique est plus réversible, par exemple. Parce que quand vous avez un état, vous ne savez pas d'où il vient. Cet état-là, il pourrait venir de celui-là, pur, ou de celui-là. Mais de celui-là avec n'importe quel alpha 1 et alpha 2. Donc il y a une infinité d'états qui vont vous donner le même état. Dès lors que alpha 1 n'est pas égal à 0, on verra ça au niveau des probabilités plus tard. Donc, c'est quand même problématique. En fait, ça contredit, c'est pas cohérent avec la physique quantique elle-même. Néanmoins,
oui. Mais pour l'interprétation des bases, si l'information de l'état 2 ne s'écrit pas, pourquoi la mentionner quand même ? Si elle ne s'exprime pas dans le...
Ce que dit Everett, c'est que si elle s'exprime, elle est là autant que l'autre.
Personne ne la conçoit.
Alors, c'est là où se pose mon petit c, je ne vais pas aller trop loin, c'est que si quelqu'un la conçoit, l'observateur dans l'état 2, lui au contraire, il ignore O1. Donc, pour Everett, les deux se produisent, on est dans cette superposition, et donc, ça correspond à un état de conscience que tout est dans l'état G1, et ça correspond à un état de conscience que tout est dans l'état G2, eh bien, l'état du monde, c'est la somme des deux. C'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais n'y a aucune raison de supposer qu'il y en a un qui disparaît arbitrairement, parce que la physique quantique nous dit que l'évolution d'un système dans un état combiné, c'est la combinaison des évolutions. C'est ce qu'on constate par ailleurs dans toutes les situations possibles et imaginables depuis des décennies. À chaque fois qu'on fait l'expérience, on voit ça, sauf quand on fait une mesure, quand l'interaction se fait avec un truc qu'on appelle instrument de mesure. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté arbitraire dans ce postulat. Néanmoins, alors, pourquoi ça, c'est pas rejeté purement et simplement? Parce que, c'est un peu ce que vous dites là, pour savoir ce qui se passe en vrai, bah, il suffit de faire l'expérience, normalement. Alors, quand on fait l'expérience, qu'est-ce qui se passe? Bah, quand on fait l'expérience, effectivement, à chaque fois, on ne voit que l'une ou l'autre des composantes, aléatoirement, donc tout se passe comme si il y a toutes les composantes sauf une qui disparaissaient. Mais c'est pas parce que tout se passe comme si toutes les composantes disparaissaient que c'est le cas, parce qu'encore une fois, donc, et c'est ça l'idée de l'interprétation de Copenhague. C'est pour ça que, en réalité, quel que soit ce qu'on pense de ce qui se passe en vrai, dans tous les cas, en pratique, ça se passe comme dit l'interprétation de Copenhague. Mais ça pose des problèmes conceptuels profonds, parce que ça viole les lois de la physique, donc ça viole les lois de la physique quantique elle-même. Donc c'est juste pas cohérent, mais tout se passe comme si. Alors, donc il y a une façon de rendre tout cohérent, c'est de supposer ça, et simplement d'accepter, enfin c'est pas supposer, c'est d'admettre ce qu'on admet par ailleurs en physique quantique, c'est on accepte que c'est ça, puisque c'est ça que nous dit la physique, et simplement... De fait, il se passe que il y a là un état de conscience pour lequel il n'y a que cet état, et il y a là un état de conscience pour lequel il n'y a que cet état-là. Donc, si vous vous identifiez à ça, je ne sais pas si c'est ça vous, alors vous voyez que ça. Si c'est ça vous, vous voyez que ça. Alors le problème, c'est qui suis-je? Puisque avant j'étais qu'un, et maintenant je suis deux qui ai vu des choses différentes. Mais la question qui suis-je, on sait qu'elle est difficile. Hein. Qu'est-ce que c'est la conscience? Qui suis-je Bah, la physique résout pas le problème. Bah oui, bah d'accord, mais ok. N'empêche, bon, on reviendra là-dessus. Réfléchissez-y pendant le week-end et on aura beaucoup de choses à dire encore.